texte de, du jour, l'un des textes du jour, c'est dans Hébreux, l'épître aux Hébreux, au chapitre 10. Et nous lirons du premier verset jusqu'au verset 18. Donc Hébreux 10, 1 à 18. Alors c'est une épître qui est un petit peu ardue, pas la plus facile à comprendre, hein. Donc on va y aller doucement. La loi, en effet, possède le nombre des biens à venir et non pas l'exacte représentation des réalités. C'est pourquoi elle ne peut jamais, par les sacrifices toujours identiques, qu'on présente perpétuellement chaque année, amener à la perfection ceux qui s'approchent ainsi de Dieu. Sinon, n'aurait-on pas cessé d'en présenter ? Puisque ceux qui rendent ce culte auraient été purifiés une fois pour toutes et n'auraient plus eu aucune conscience de leur péché. Mais par ces sacrifices, on rappelle chaque année le souvenir des péchés, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. C'est pourquoi, en entrant dans le monde, le Christ dit « Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit « Voici, je viens ». Dans le rouleau du livre, il est écrit à mon sujet « Pour faire, ô Dieu, ta volonté ». Et ceci est un extrait du psaume 40, je pense. Il dit d'abord, donc Jésus, il dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, qui cependant sont offerts selon la loi. Puis il dit, voici, je viens pour faire ta volonté. Il abolit donc le premier culte pour en établir un second. Et c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Tout sacrificateur se tient à son poste chaque jour pour faire son service et offrir souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés. Mais lui, après avoir présenté un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis à perpétuité à la droite de Dieu. Et il attend désormais que ses ennemis deviennent son marchepied. Car par une seule offrande, il a rendu parfait à perpétuité ceux qui sont sanctifiés. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste également, car après avoir dit « Voici l'alliance que je traiterai avec eux », après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur intelligence. Et il ajoute « Je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. » Et ceci est un extrait du prophète Jérémie, quelques 6 ou 7 siècles avant Jésus-Christ. Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Alors, ce texte que nous venons de lire est un échantillon tout à fait représentatif, je dirais, de l'ensemble de l'Épître aux Hébreux. L'Épître aux Hébreux comporte 13 chapitres. Et ce que nous venons de lire, c'est tout à fait dans l'esprit des 10 premiers chapitres, même 10 et demi. La dernière partie est donc consacrée à des exhortations pratiques. Mais je ne vous cache pas que pour préparer cette prédication à partir de ce texte, j'ai été amené finalement à relire l'ensemble, bon, c'est pas immense, hein, 13 chapitres, l'ensemble de l'Épître. Et la première réflexion que je me suis faite, c'est que décidément cette Épître, elle a un caractère particulier. Alors une Épître, qu'elle soit de Paul, de Pierre, de Jacques, de Jean, de qui vous voulez, une Épître c'est toujours une sorte de prédication. C'est une prédication de l'Évangile, n'est-ce pas? Donc celle-ci n'échappe pas à la règle, c'est une prédication de l'Évangile, mais avec un caractère, on va voir, on va le décortiquer en détail, avec un caractère particulier qui m'a fait dire, mais à qui s'adresse-t-elle vraiment, cette épître? Alors, la réponse, elle est dans le titre, hein, Épître aux Hébreux. Aux Hébreux. Bon, elle s'adresse aux Hébreux. Alors là, on a toujours un petit peu de mal avec les diverses appellations du peuple élu, hein. On dit alors parfois les Hébreux, les Israélites, les Juifs, Puis alors à l'époque actuelle, on en rajoute encore. On dit, par exemple, on dit quelqu'un qui est contre les juifs, mais il est antisémite. Voilà encore une autre appellation. Vous voyez beaucoup de. Et puis on parle des Israéliens, mais non plus des Israélites. Alors tout ça c'est un petit peu confus. On a de temps en temps besoin de remettre un petit peu d'ordre. Alors j'ouvre une petite parenthèse rapide. Bon, effectivement. Le terme sémite, il est très vague finalement, je ne vois pas pourquoi on parle d'antisémitisme, parce que les sémites, c'est à l'origine, il y a fort longtemps, un peuple qui descendrait donc de Sem, l'un des fils de Noé, n'est-ce pas ? Mais alors, c'est, oui, quand je dis que c'est très vague le terme, c'est qu'il faut quand même savoir que dès le 24e siècle avant Jésus-Christ, donc il y a 44 siècles, les Sémites ont pris possession et ont dominé la quasi-totalité de ce qu'on appelle le croissant fertile, la Mésopotamie, la Syro-Palestine, etc., tout le Proche-Orient, le Moyen-Orient. À tel point d'ailleurs que, chose qui peut surprendre certains parmi vous peut-être, c'est que les ennemis jurés d'Israël, comme les Assyriens qui ont déporté le royaume d'Israël, ou comme les Babyloniens qui ont déporté le royaume de Juda à Babylone, c'était des Sémites. Bon, alors, on dit antisémite, ça ne signifie pas grand-chose, mais on sait qui on désigne, mais ce n'est pas très approprié. Alors, parmi ces Sémites, il y avait les Hébreux. Les Hébreux, là aussi, il y a un petit mystère, on ne sait pas exactement si le nom viendrait d'un des descendants de Sem, justement, qui s'appelait Héber, avec un H, Héber. C'est possible, ou bien si beaucoup de spécialistes affirment qu'il viendrait d'un mot égyptien. Les Égyptiens désignaient par le nom de Abirou ou Apirou, tout ce qui était nomade dans le désert. Et le mot d'ailleurs est très péjoratif puisqu'il veut dire les poussiéreux. Les Abirou, c'était les poussiéreux, quoi, les coureurs de sable. Ils les méprisaient un peu et alors ils les voyaient régulièrement venir dans le delta quand il y avait des famines ou quand il y avait des sécheresses. Que le désert était décidément trop dur pour faire paître leurs troupeaux. Et ce mot est peut-être donc resté attaché à ce peuple qui, aux alentours de 1700 et quelques avant Jésus-Christ, est venu s'installer dans le delta du Nil. Bon, alors oui, ça aussi c'est un petit peu flou. Les Hébreux, alors parmi les Hébreux, en tout cas, il y a une chose plus précise, c'est les Israélites. Alors les Israélites, eh bien... descendant d'Israël, autrement dit de Jacob, après qu'il a été renommé par Dieu Israël. Alors là, on sait de qui on parle, les Israélites sont bien le peuple élu, descendant de Jacob, des patriarches, hein, Abraham, Isaac, Jacob. Bon. Et puis alors, on les appelle aussi les Juifs, alors voilà encore autre chose, les Juifs c'est un mot qui n'apparaît qu'au 4e siècle avant Jésus-Christ. Donc très très tardivement, le mot Juif a été donné donc aux Israélites après le retour de Babylone, hein, faut quand même le savoir, c'est vraiment très tardif. Et alors là, il désigne, si vous voulez, le côté religieux, puisque sont nommés juifs ceux qui pratiquent le judaïsme. Bon, alors vous voyez, tout ça, c'est un peu compliqué, mais finalement, on peut dire que déjà à l'époque où cette lettre aux Hébreux a été écrite, eh bien, Hébreux, Israélites et Juifs, ça désignait finalement le même peuple. Donc on aurait pu baptiser cette épître épître aux Israélites ou épître aux Juifs. Voilà. Bon, je referme la petite parenthèse. Et il faut répondre à la question de départ. Mais qui sont ces Hébreux finalement pour que cette épître soit tellement connotée? Alors bien sûr, on va rentrer un peu dans le détail, voir qu'est-ce qui est dit dans cette épître. Eh bien, en effet, je vous l'ai dit, donc une épître, c'est une prédication de l'Évangile, et on ne prêche pas l'Évangile aux Hébreux ou aux Juifs de la même façon qu'on prêcherait l'Évangile aux Grecs ou aux Romains ou à n'importe quel autre peuple païen. Pour la simple raison, la bonne raison, que ce peuple juif a une très longue histoire, à ce moment-là déjà, une histoire avec Dieu. Une très longue relation avec Dieu, et même, je dirais encore mieux, il a une alliance. Rappelez-vous, l'alliance, aux alentours de 1200 avant Jésus-Christ, avec Moïse, au Sinaï, hein, juste après être sorti d'Égypte. Alors, ces gens-là, il ne faut pas leur expliquer qui est Dieu. Ils en connaissent un rayon, n'est-ce pas ? Par contre, il faut quand même arriver à leur inculquer les principes de la nouvelle alliance. Le simple fait que ce soit une nouvelle alliance, voilà quelque chose qui pouvait quand même les heurter. Alors, heureusement, la lettre s'adresse à des Juifs qui sont quand même convertis, c'est-à-dire qui ont accepté Jésus-Christ comme Messie. Mais on se rend compte à quel point, vu les explications qui sont dans cette épître, à quel point les Hébreux, les Juifs, étaient imprégnés, immergés dans le judaïsme, j'allais dire imbibés, formatés, on dirait maintenant, avec un terme un petit peu moderne, formatés dans leur esprit, dans leur culture, dans leur vie tout entière, par cette ancienne alliance, qui, il faut dire, ne laissait rien au hasard. Vous voyez, à longueur de pages, dans l'Exode, dans les Nombres, le Lévitique, vous voyez, toutes ces lois qui sont extrêmement, j'allais dire, tatillonnes, extrêmement précises, et également extrêmement sévères. Donc voilà un peuple vraiment immergé dans une culture de l'ancienne alliance à qui il faut expliquer la nouvelle. Je crois que le rédacteur, alors on ignore qui c'était, on dit toujours que le style, enfin pas le style, non, justement, le fond, les explications sont tout à fait pauliniennes, c'est-à-dire viendraient de Paul. Mais les experts sont formels, ils disent la rédaction n'est pas dans le style habituel des épîtres de Paul. Alors peu importe, on pense que c'est peut-être Apollos qui aurait rédigé avec son style, mais sous les directives, sous la dictée en quelque sorte, enfin sous les recommandations de Paul. Peu importe. Ce que je voulais dire, c'est que celui qui a rédigé cette lettre aux Hébreux, il a dû transpirer quelque chose. Parce qu'il a dû soupeser chaque mot, il a dû soupeser chaque phrase qu'il a écrite, pour ne pas heurter les consciences, comme je l'ai dit, tellement formatées et tellement imprégnées de cette culture du peuple élu. Alors, là où il va beaucoup insister, en faisant la comparaison entre ancienne et nouvelle alliance, c'est sur par rapport au souverain sacrificateur. Alors, c'est vrai que le souverain sacrificateur qui était désigné donc dans le peuple, parmi la tribu de Lévi, si je ne me trompe pas, il avait un rôle fondamental. Il s'agissait pour lui, dans son service, d'expier le péché du peuple. Alors c'était compliqué parce qu'il devait d'abord faire des sacrifices pour ses propres péchés, parce que lui-même était un homme pécheur. Alors pour s'approcher du Saint des Saints, une fois par an, il devait d'abord faire des sacrifices pour lui. Et puis ensuite, il y avait les sacrifices pour le peuple. Mais l'auteur de l'épître explique bien que tout ce service était très imparfait, parce qu'il fallait les renouveler sans arrêt. Et puis le sacrificateur arrivait un jour où il mourait lui-même, il fallait le remplacer. Donc il y avait cette notion de remplacement perpétuel, d'imperfection. Et alors à côté de ça, il présente Jésus comme le nouveau souverain sacrificateur, qui lui est absolument parfait. Parfait parce que d'abord, il est à la fois le sacrificateur, mais il est aussi la victime. C'est ça qui est extraordinaire. Une victime parfaite, sans tache, puisqu'il nous est dit qu'il n'a jamais péché, et un sacrificateur parfait, parce que lui, après la résurrection, eh bien, il vit éternellement auprès du Père. Voilà un peu comment s'articule cette lettre aux Hébreux, avec beaucoup de détails, beaucoup de redites. Moi, je vous encourage à lire l'ensemble, ça vous prendra une petite demi-heure chez vous. Vous allez voir comme c'est absolument incroyable comment le rédacteur de cette lettre a montré les choses, a montré cette transition entre une ancienne alliance imparfaite, mais qui avait quand même le mérite d'exister, et une nouvelle alliance absolument parfaite à laquelle il invite tous les lecteurs à se joindre. Il y a une chose, vous avez peut-être entendu, ça vous a peut-être titillé l'oreille quand je l'ai lu, mais en tout cas mes yeux ont fait titre, une chose qui peut nous heurter un petit peu, au verset 10, pardon, au, c'est au verset 9. Puis il dit, Jésus dit, voici je viens pour faire ta volonté. Il abolit donc le premier culte pour en établir un second. Ce que je viens de vous expliquer, il abolit le premier culte, l'ancienne alliance. Alors quand on parle de culte, il ne s'agit pas de notre retrouvaille du dimanche matin de 10h à midi moins le quart, hein, on est d'accord, c'est le culte, c'est là l'expression de la foi, de l'adoration d'un peuple vers son Dieu. Hein. Il abolit le premier culte pour en établir un second. Ah, alors là, il y a une petite contradiction, parce que si vous allez chercher dans Matthieu, c'est dans les Béatitudes, dans le sermon sur la montagne, donc chapitre 5, Matthieu 5, 17 de mémoire, il faudrait vérifier, Jésus lui-même en personne dit, vous croyez que je suis venu pour abolir ? Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Alors comment l'auteur de l'Épître aux Hébreux peut-il dire, il abolit le premier culte pour en établir un second ? Si je vous disais que j'y ai passé un moment, je me suis dit, mais est-ce qu'il s'est pas un peu loupé, là, le gars, parce qu'il a, il a pas lu l'Évangile, qui, le moment où Jésus dit, je ne suis pas venu pour abolir, et il rajoute même, pas un seul iota de la loi ne sera ôté, etc. Il est formel là-dessus. Et justement, je viens de vous parler de la loi, mais là, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, il ne parle pas de la loi, il parle du culte. C'est-à-dire qu'il ne dit pas, il abolit la loi, la première loi, pour en établir une seconde. Il parle du culte. C'est-à-dire que la loi, effectivement, Jésus ne l'a pas abolie, dans le sens où, pour établir la nouvelle alliance, vous remarquerez que tous les germes de la nouvelle alliance se trouvaient déjà dans l'ancienne. L'amour de Dieu, l'amour du prochain, pour trouver tout. Alors évidemment, avec une loi très tatillonne. Et donc cette loi, en fait, elle est quand même, elle n'est pas abolie, mais elle devient obsolète. Et du coup, le culte que le peuple désormais doit rendre à Dieu, dans le cadre de la nouvelle alliance, le culte est obsolète. La façon d'adorer Dieu n'est plus du tout la même. Et en particulier, pour tout ce qui concerne les sacrifices à renouveler, etc., etc., etc. Alors, je crois qu'il fallait faire cette précision, parce que ça peut heurter. Alors, dans certaines versions, je ne sais pas celle que vous avez là, s'il s'agissait du mot abolir, parce que j'ai vu qu'il y a des versions qui utilisent un autre verbe. Mais en tout cas, dans ma version, c'était bien le terme, le verbe abolir. Alors, où tout cela peut-il nous mener ? Parce que là, je vous fais un peu d'histoire, de théologie historique. Vous avez remarqué, je suis un peu passionné par l'archéologie, l'histoire antique, hein, donc en particulier l'archéologie biblique. Mais là, je me dois quand même d'apporter un message. Le Seigneur a quelque chose à nous dire à partir de ce que nous avons lu. Et ça s'adresse aux Hébreux, mais bon, nous ne sommes pas Hébreux, sauf peut-être exception, j'en sais rien. Où cela peut-il nous mener ? Eh bien, sincèrement, je me suis interrogé, je me suis dit, est-ce que nous ne serions pas, nous aussi, dans l'esprit de l'ancienne alliance. On ne l'a pas connue, cette, puisque bon, quand nous sommes nés, on était déjà depuis presque 2000 ans dans la nouvelle alliance, on est chrétien, n'est-ce pas, nouvelle alliance. Mais dans l'esprit de l'ancienne alliance. Alors je m'explique. Je vous ai dit tout à l'heure que ce peuple hébreu était formaté par cette ancienne alliance, et difficile de s'en détacher, parce qu'il y avait derrière lui des générations et des générations qui ont enseigné cette alliance, et donc depuis 12 siècles au moins. Bon, 12 siècles, ils ont eu le temps d'installer des traditions, des rites, et, qui étaient d'ailleurs imposés par la loi de Moïse. Et voilà pourquoi ils étaient formatés. Excuse du terme, qui n'est peut-être pas très propre, mais formaté. Et nous ? Alors nous sommes nés dans le christianisme directement, je vous l'ai dit, dans la Nouvelle Alliance. Mais dans l'Église chrétienne, c'est pas 12 siècles, c'est 20 siècles qu'elle a. Et vous savez, en 20 siècles, elle a eu le temps aussi d'installer toutes sortes de rites et de traditions. Ce qui ne veut pas dire que ces rites et ces traditions sont des mauvaises choses. il y a de très bonnes choses dans les rites et les traditions. Pourquoi ? Parce que les rites et les traditions nous permettent de célébrer le culte ensemble, parce qu'on est synchronisés, on a les codes. Alors il faut les apprendre, les codes, hein, bien sûr, mais ça nous permet d'avoir une louange commune, une adoration commune, voilà. Mais des rites et des traditions qui sont bien ancrés, bien installés en nous. Alors vous allez me dire, oui, 20 siècles, mais heureusement, nous protestants, on a une porte de secours, parce que il y a eu la réforme, n'est-ce pas ? C'est vrai que au cours des siècles, et notamment au Moyen-Âge ou à la Renaissance, l'Église romaine est partie dans du grand n'importe quoi. Hein, il était temps qu'il se passe quelque chose. Alors, Luther, Calvin nous établissent la réforme. Oui, mais dites-donc, Luther et Calvin, c'est il y a 5 siècles. Et là aussi, une fois de plus, bon, 5 siècles, nous protestants, en 500 ans, on a eu le temps aussi d'installer un tas de rites et de traditions et de coutumes et de... avec des codes, avec des... On s'en rend compte quand on a quelqu'un qui arrive, qui ne connaît absolument pas notre monde, qui arrive dans nos communautés, on voit comme il est déphasé. C'est là qu'on se rend compte que nous, on a tout un vocabulaire, on a des habitudes et des traditions et des rites. Bon. Une fois de plus, des rites et des traditions qui ne sont pas forcément mauvais, mais qui peut-être nous donnent des œillères, c'est-à-dire nous formatent. Et en quoi est-ce qu'on serait animé de l'ancienne alliance ? Eh bien, certainement, les Hébreux, les Juifs, les Israélites avaient ce sentiment très fort qu'en obéissant à la loi, le plus à la virgule près possible, eh bien, ainsi, ils pouvaient acquérir leur justification devant Dieu. Alors, on ne parle pas de salut, vraiment, dans l'ancienne alliance, on va dire la justification, voyez ? Rappelez-vous la parabole de Jésus qui désigne un péager, un pharisien. Alors le pharisien, il fait le compte. Je donne la dîme, je fais l'aumône aux pauvres, je jeûne deux fois par semaine, je ne manque à aucun de mes devoirs. Il se justifie lui-même à ses propres yeux, hein, mais croyant peut-être être justifié aux yeux de Dieu. Enfin, c'était certainement ça a été le piège. Et voilà pourquoi l'Épître aux Hébreux se répand en explications, en détails, parce que ces gens étaient persuadés qu'en accomplissant la loi, en obéissant, en accomplissant tous les devoirs, tous les rituels, toutes les traditions de la loi de Moïse, eh bien, ils étaient, alors on ne parle pas de sauvés, mais ils étaient justifiés devant Dieu. Et nous, n'avons-nous pas, alors là, ça demande de chacun dans son cœur, doit être honnête avec lui-même, n'avons-nous pas cette impression que, en cultivant tous nos devoirs de bons protestants réformés, puis maintenant réformés évangéliques, eh bien, quelque part, on se met en règle devant Dieu. Qu'est-ce que Dieu pourrait me reprocher ? Je occulte tous les dimanches, je donne à la collecte, je pratique autant que je peux, alors bien sûr je suis pécheur, mais je me repens régulièrement, etc., etc. Et est-ce que ça c'est l'esprit de la nouvelle alliance ? Pas du tout. Nous n'y sommes pas du tout. Jésus est clair là-dessus. Moi j'ai ouvert les yeux il n'y a pas si longtemps là-dessus, grâce à deux textes. Moi, le premier c'est le début de l'évangile, notamment Matthieu et Marc. Oui, Matthieu et Marc. Début de les premiers mots que les évangélistes mettent dans la bouche de Jésus, c'est « Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. » Et je préfère d'ailleurs les traductions qui disent « Car le royaume de Dieu s'est approché. » Parce que là, c'est beaucoup plus clair. « Repentez-vous, alors, oui, il faut la repentance, mais repentez-vous, car le royaume de Dieu s'est approché. » C'est le royaume de Dieu qui s'est approché de vous, c'est pas vous qui vous êtes approché à force d'efforts, etc., du royaume de Dieu. Vous voyez la différence. Bon. Et donc la repentance, c'est quand même un commandement, repentez-vous, elle n'est plus, comment on va dire, un déclencheur pour acquérir le royaume de Dieu, elle est une conséquence. Si je me repens, c'est parce que j'ai reçu la grâce, c'est parce que je suis pardonné. Avant même, peut-être même, avant même d'avoir demandé pardon, je vous signale que Jésus est mort il y a 2000 ans, et c'est au moment où il est mort sur la croix, il a dit tout est accompli, le pardon, la grâce est enfin déposée aux pieds des hommes. et nous invite à nous en saisir. Mais oui, on n'a pas été la chercher, elle est là. Jésus nous la donne, il n'y a plus qu'à tendre les bras, il nous la donne. Et c'est la repentance et la foi qui nous permettent d'en être au bénéfice. Donc c'est alors, le deuxième texte qui m'a ouvert les yeux sur cette réalité, c'est-à-dire la grâce est première. La grâce a devancé tout ce que l'homme peut imaginer. Elle est la première dans la Nouvelle Alliance. Dieu arrive, il dit « Voilà ma grâce, elle est pour vous. » Après, bien sûr, à nous de nous en saisir, entre autres avec la repentance. Le deuxième texte, c'est la femme adultère qu'on amène devant Jésus pour coincer Jésus. Il n'en avait rien à faire de la femme adultère, mais il voulait coincer Jésus. Voilà, elle a été prise en flagrant délit d'adultère. Qu'est-ce qu'on en fait? La loi nous dit qu'il faut la lapider, vous connaissez l'histoire. Et alors en général, ce texte, on s'engouffre dans l'intelligence de Jésus qui dit, ben oui, c'est la loi, ben, on va la lapider. Alors je vous propose un petit challenge, hein, une petite condition, celui qui n'a jamais péché commence avec la première pierre. Et puis là, évidemment, tous, ils s'en vont les uns après les autres, parce que tous ont péché, évidemment. Mais moi, ce qui m'intéressait en ce texte, c'est qu'au moment où il fait remarquer à la femme, qui n'a pas encore ouvert la bouche, hein, elle n'a encore rien dit, hein, il lui fait remarquer que ses accusateurs sont tous partis, il n'y a plus personne, ils se retrouvent tous les deux. Et là, Jésus lui dit, moi non plus, je ne te condamne pas. Alors, va et ne pêche plus, bien sûr. Je veux dire, oh, allez, vas-y, fais ce que tu veux, recommence, bien sûr. Va et ne pêche plus. Mais c'est extraordinaire, il lui dit, moi non plus, je ne te condamne pas. C'est-à-dire, en gros, la grâce, elle est là. Elle n'a pas encore demandé pardon. Alors, par contre, comme elle n'est pas condamnée, ni par Dieu, ni par Jésus, eh bien, elle va pouvoir faire son travail de repentance. Elle va pouvoir faire vraiment dans un esprit de reconnaissance, de louange. Quelque part, Jésus vient de la sauver de la lapidation. Alors, j'imagine qu'elle est transportée de reconnaissance. Et elle va pouvoir dire combien j'étais misérable dans mon péché, combien j'étais... Et oui, la grâce est première. Et c'est peut-être ce problème qui est à la base de tous nos autres problèmes spirituels. C'est qu'on a toujours l'impression qu'il y a un effort à faire, qu'il y a quelque chose à conquérir, qu'il y a quelque chose à aller gratter, à aller décrocher la timbale, je sais pas, pour être sauvé, pour obtenir le pardon, pour obtenir la grâce. Alors je ne dis pas qu'on se roule les pouces. La repentance, ce n'est pas forcément évident. Demander pardon au Seigneur, ce n'est pas forcément évident. Parce que si on est un minimum sincère, ça demande un retour sur soi-même, dire oui, j'ai péché, etc. Mais quelle libération de savoir que, avant même que j'ouvre la bouche pour demander pardon, la grâce est là. Je vous donne ma grâce. La grâce et la paix. Je vous la donne, nous dit Jésus. Et voilà, toutes nos traditions, nos rites, ils sont là pour nous dire « Ah, t'as pas été au culte le dimanche dernier, t'aurais pu. » Oui, enfin, bien sûr qu'il faut venir au culte autant qu'on peut parce que on y trouve notre compte. Mais oui, on met toujours en avant l'accomplissement de tout un tas de petits devoirs, un tas de petites obligations pour... En même temps, c'est vrai que quand on les réussit, ces obligations, on est très régulier, ceci, cela, on participe à la vie de la communauté, ça nous fait plaisir parce que du coup, on se dit, le Seigneur, il va être content de moi. Enfin, on ne se le dit pas comme ça, c'est un peu inconscient, vous voyez. Et là, je dis, on est dans l'esprit de l'ancienne alliance, accomplissement des lois, etc., pour espérer être justifié aux yeux de Dieu. Et bien que le Seigneur nous guérisse de cet esprit, alors pas de l'ancienne alliance, on n'y est pas, mais de l'esprit de l'ancienne alliance, et que le Seigneur nous inculque au plus profond de nos cœurs. Oui, comme il était dit dans le texte de Jérémie. Voici l'alliance que je traiterai avec eux après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur cœur. Alors les lois, c'est plus des lois, j'allais dire, c'est plus des contraintes quand elles sont dans notre cœur. C'est le code du bonheur qui nous met dans le cœur. Hein. Bon. Et je les écrirai dans leur intelligence. C'est-à-dire qu'on va véritablement les comprendre, ces lois. Aimer Dieu, aimer son prochain. On va les comprendre avec notre intelligence, pas seulement avec le cœur. et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. » La nouvelle alliance, c'est-à-dire le grand sacrificateur, qui est Jésus, lui seul, avec la nouvelle alliance, a la capacité d'effacer le péché. C'est pas seulement pardonner. Dans l'ancienne, ils étaient pardonnés, mais le péché n'était pas effacé. Je ne me souviendrai plus de leurs péchés, ni de leurs iniquités. Eh bien, après ça, j'ai plus envie de rajouter quoi que ce soit. Alors, je vous dis Amen.